Donc aujourd'hui, le résultat, c'est que le gant Renaissance est le produit phare depuis 25 ans, partout à travers le Canada et même dans certaines parties du monde. Donc j'en suis très fière.
Mon nom est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 117e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis et jeudis matin. Également, l'épisode d'aujourd'hui est présenté et produit par J7 Media, une agence de publicité Facebook. En gérant fièrement plus de 30 millions de dollars de publicité Facebook à l'année, J7 Media aide depuis 9 ans maintenant les entreprises à accélérer leur croissance via l'entremise de la publicité Facebook et Instagram. Si vous désirez être au courant des meilleures pratiques dans l'industrie en ce qui concerne la pub Facebook, je vous invite à écouter le podcast Social Selling qui est mis en ligne tous les mercredis matin. L'équipe de J7 Media vous livrera chaque semaine des études de cas réelles qui vont pouvoir vous aider à améliorer les performances de vos campagnes. Au cours des 10 dernières années, peu de femmes ont eu autant d'impact dans le monde des affaires que Danielle Henkel. Connue du grand public lors de l'émission Dans l'œil du dragon où elle sera présente pendant 5 saisons, Madame Henkel a été très impliquée dans divers projets depuis. En plus d'avoir continué à faire croître son organisation principale, les entreprises Danielle Henkel, elle a également décidé de lancer Henkel Media, une plateforme en ligne qui fait découvrir des entrepreneurs en émergence de la province. En plus de ses activités en tant qu'entrepreneur, Danielle continue à faire la promotion du monde des affaires au Québec en étant porte-parole de Evol, anciennement connue sous le nom de Femme Essor. Dans un entretien de près de 45 minutes, on aborde donc ces différents termes en plus de comprendre davantage comment son parcours en tant que chef d'entreprise a débuté. Sans plus attendre, ma discussion avec Danielle Henkel. Madame Henkel, vous êtes la présidente et fondatrice des entreprises Danielle Henkel, une organisation qui se spécialise dans le domaine du médico-esthétique et également de Henkel Media, une plateforme de contenu numérique qui a pour but d'amener des solutions aux enjeux que font face les entrepreneurs de chez nous. En plus d'être une chef d'entreprise très connue au Québec, vous êtes également porte-parole de l'organisme Evol, conférencière et auteur à succès avec 3 livres mis en marché qui sont chacun devenus des best-sellers. Madame Henkel, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui.
Ça me fait plaisir, Antoine, d'être avec vous et avec tous vos auditrices et auditeurs.
Et Madame Henkel, ça va faire, je crois bien, 25 ans en 2022 que vous avez fondé votre entreprise, les entreprises Henkel. Félicitations, c'est un chiffre que peu d'entrepreneurs peuvent se targuer d'avoir. Et avant de parler davantage de votre actualité du moment, pourriez-vous nous faire un petit retour dans le passé aujourd'hui en nous racontant comment vous avez lancé votre entreprise dans la fin des années 90?
Vous me ramenez dans le temps. Effectivement, c'est pas, disons que 25 ans, ça n'a pas été sans haut et sans bas aussi, ce qui est le lot de tout entrepreneur. Ça m'étonne, en tout cas, je n'en connais pas qui ont eu une profession linéaire. Elle est plutôt avec des succès et des échecs, donc en dents de scie. Comment j'ai commencé? Alors, j'ai d'abord commencé par écouter ce qu'on appelle la flamme de l'entrepreneur. Et je me suis lancée avec une idée toute simple, une idée parce que je trouvais que cette idée-là faisait du sens, puisque j'aime tout ce qui est innovant. J'aime aussi le monde du médico-esthétique, comme on l'appelle. J'aime informer, j'aime donner des trucs, mais je reste dans le monde plus naturel. Donc, j'ai de la difficulté avec la douleur. Donc, j'ai choisi un domaine où on n'a pas de douleur, où on ne peut pas faire mal. On doit, en fin de compte, faire du bien. Donc, je suis plutôt vers, si tu as de la douleur, comment est-ce qu'on peut t'aider à ne plus en avoir? Même en même temps, comment on peut aussi travailler sur accepter nos façons de vivre, nos façons d'être, tout en améliorant notre style de vie. Donc, c'est différent. Ma mission dans cette entreprise, c'était de parler de produits qui respectent non seulement le corps humain, dans sa différence, parce qu'on est très différents les uns des autres, mais qui respectent aussi l'environnement. Depuis toujours, ça a été ma préoccupation. Donc, j'ai essayé de mettre sur le marché et j'ai choisi, disons, des chemins peu entamés, peu connus, ce qu'on appelle en anglais, puis je m'excuse de l'anglicisme, « blue ocean ». Je me disais, je vais essayer d'innover dans un monde où on savait pas quand je m'étais présentée la première fois en parlant d'un gant d'exfoliation, on me dit un gant, mais non, c'est une mitaine. Nous, les gants, c'est des gants pour l'hiver. Donc, vous voyez, je venais de loin. Et quand je m'étais présentée, bien sûr, aux banques et que je parlais du gant Renaissance, on m'a dit, mais vous savez que ça va vous prendre des centaines de milliers de dollars, voire des millions, pour changer la mentalité, une culture en fin de compte, la culture québécoise, la culture canadienne. Et je me suis dit, c'est possible, c'est vrai, parce que c'est ce que je proposais, mais je me disais que j'avais tout le temps devant moi et qu'avec un bon produit, avec des résultats probants, et quand on parle de santé, de bien-être et de mieux-être, que j'y arriverai peut-être. Donc aujourd'hui, le résultat, c'est que le gant Renaissance est le produit phare depuis 25 ans, partout à travers le Canada et même dans certaines parties du monde. Donc j'en suis très fière. Les gens l'adoptent, les gens l'aiment. Donc vous voyez que quelquefois, on peut se mettre des barrières, on peut penser que ce que les autres, comme perception qu'ils ont, et avec raison, puisque c'était unique, que ça prendrait vraiment beaucoup d'argent, beaucoup d'efforts. C'est ce que ça a pris. Mais je me suis débrouillée avec un peu d'argent, beaucoup d'écoute, beaucoup de travail, être entourée aussi des bons clients, parce que c'est eux qui m'ont permis justement d'être des ambassadeurs pour ce produit, et le client final qui a adopté et jusqu'à aujourd'hui qui dit le gant Renaissance est le numéro un au niveau de l'outil d'exfoliation naturelle. Donc j'en suis très fière. À partir de là, cher Antoine, ça m'a poussée puisque les demandes de mes clients étaient toujours plus. Hein, on me demandait est-ce que vous avez autre chose à vendre? Est-ce que vous avez d'autres produits? Et je me suis mis à la recherche de lignes cosmétiques, encore une fois, dans le Blue Ocean, parce que c'est comme ça que j'aime faire les choses. Je me rends compte que je suis une personne qui aime prendre des risques, mais qui n'aime pas suivre le chemin emprunté naturellement. C'est juste une question d'être. Peut-être que ma tolérance au risque est très élevée, et c'est correct aussi. Donc, j'ai décidé de faire différent, et je me suis retrouvée avec une ligne cosmétique, une première dans les annales, qui était une ligne canadienne, alors que tout le monde ne parlait que des lignes européennes, italiennes, françaises, japonaises, suisses. Moi, j'arrive avec une ligne canadienne et tout le monde m'a dit, on ne fait pas de produits de haut de gamme chez nous. Et j'ai dit, ben oui, on en fait. Donc, j'ai fait découvrir une ligne qui s'appelait, et qui s'appelle encore Oxygen Botanicals. Elle était infusée d'oxygène pur. Donc, je me suis mis avec mon équipe à parler d'oxygénothérapie, d'oxygène, alors que personne n'en parlait. C'est devenu ensuite quelque chose de tout à fait normal. Et je me suis retrouvée ensuite à proposer des équipements médicaux, des équipements qui sont dans deux catégories, tout le côté thérapeutique et tout le côté esthétique. Donc, je fais affaire avec mes fournisseurs, je vous dirais, depuis au moins 19 ans. Donc, la même chose avec les façons de faire avec mes clients, je le fais avec mes fournisseurs. J'essaie de trouver des fournisseurs qui ont les mêmes valeurs que les nôtres et qui sont là pour perdurer dans le temps parce qu'on a justement le même intérêt, c'est de répondre à des besoins tout en respectant bien sûr les valeurs que nous avons, c'est-à-dire le naturel, le non-invasif, l'éducation aussi. C'est comme ça que j'ai créé avec mon équipe l'Académie Daniel Henkel qui perdure depuis 23 ans et qui est devenu le leader au Canada de la formation vers les professionnels. Voilà.
Wow. Puis, Madame Henkel, c'est une histoire qui est totalement fascinante, l'évolution de votre entreprise. Et j'aimerais vous poser une question. Souvent, une chef d'entreprise va avoir plusieurs fonctions qui vont évoluer à travers le temps. Bien entendu, ce que vous faisiez à la fin des années 90 n'est certainement pas la même chose que vous faites en 2021 maintenant. Mais êtes-vous capable de nous amener un petit peu avec cette évolution-là de l'entrepreneur? Qu'est-ce que vous faisiez spécifiquement au départ? Qu'est-ce que vous avez fait peut-être 4, 5, 6, 7 années après la fondation? Et aujourd'hui, quel est votre rôle dans l'organisation pour s'assurer qu'elle puisse continuer à rayonner?
Tout d'abord, quand j'ai commencé, j'étais seule et j'ai demandé l'aide de ma fille aînée parce que elle était à l'université. Puis j'essayais d'avoir un peu d'aide parce que j'avais pas les moyens de me payer des employés. Donc je travaillais dans mon sous-sol chez moi, Repentigny, et puis avec ma maman et mes enfants, ben on faisait nous-mêmes l'empaquetage des gants. Donc c'était vraiment du hands-on, comme on le dit. Je portais plusieurs chapeaux, je faisais la vente, le marketing, les rencontres, l'emballage, le shipping, tout parler. Donc je suis passée de cela à une entreprise qui a commencé à recruter bien sûr des employés pour leurs compétences différentes, où on a eu des départements qui se sont créés. Donc on a évolué avec non seulement la demande, l'évolution, le positionnement aussi du produit, la réponse positive de ce produit aussi, et d'autres produits, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, Connex, qui ont fait que, bien sûr, on est sorti du sous-sol et on s'est retrouvé on va appeler ça un incubateur. Ça a été ma première sortie. J'avais donc le gant, puis j'avais la ligne Oxygène Botanical, et ensuite ça a pris beaucoup plus d'espace. On est parti d'un 900 pieds carrés à un 3500 pieds carrés parce qu'on venait d'acquérir les équipements médicaux. Donc, je suis passée aussi là à donner de la formation, recruter des personnes dans le monde médico-esthétique, donc médical, ouvrir une académie. Donc, j'ai porté plusieurs chapeaux, toujours hands-on et toujours dans la vente. J'adore la vente. Vous savez, souvent on dit, toi, t'es un bon vendeur. Et moi, de rétorquer, vous savez, c'est une profession. C'est un art de savoir vendre. Il n'y a rien de péjoratif à la vente. On vend tous quelque chose, quelque part, tout le temps. On se vend soi-même, tout le temps, à tout bout de champ. Donc, c'est tout un privilège de se faire dire que on est un excellent négociateur ou bonne vendeuse. Donc, voilà mon rôle dans l'entreprise, c'était oui, de gérer autant les ventes que de participer à la formation, que de faire du développement avec, bien sûr, ma fille et l'équipe qui nous accompagnait. Tranquillement, les opérations, je les ai laissées à mes enfants. J'avais mes 4 enfants dans l'entreprise avec, bien sûr, les différents directeurs de département. J'ai été très impliquée au niveau du développement en particulier et bien sûr de tout ce qui avait à voir avec ce que j'appelle les fameux comités direction. Donc, on échangeait pour les directions, pour la vision à chaque année, la stratégie. J'étais pas mal impliquée là-dedans. Tranquillement, après les dragons, j'ai eu beaucoup de travail à faire sur les investissements dans lesquels j'ai été impliquée. Puis, j'ai été un peu happée et ça, on me l'a pas enseigné. Donc, il a fallu apprendre sur le tas. Vous savez, Antoine, j'ai appris sur le tas à faire face à une demande d'un tsunami, que ce soit au niveau des médias, que ce soit au niveau des demandes, que ce soit au niveau des fondations. Vous savez, quand les gens vous découvrent, vous découvrez vous aussi tout un autre monde. Donc, je suis passée de la femme d'affaires dans son monde à elle à la femme publique qui devait pratiquement tout savoir sur pratiquement tout. Et donc, involontairement, et je vais vous dire de façon tout à fait naturelle, mes enfants se sont vus tributaires de cette gestion du groupe auquel ils avaient peut-être pas encore été totalement préparés. Mais j'étais présente, mais pas aussi présente que je l'étais avant. Et là, tranquillement, j'ai commencé à faire en sorte que mes enfants prennent la relève. Et je vous dirais qu'aujourd'hui, mon titre réel, c'est plutôt fondatrice des entreprises d'Enkel. Aujourd'hui, ce sont mes deux filles qui sont à la tête de ce groupe-là et j'en suis tellement fière parce que elles l'ont drôlement gagné.
Une histoire exceptionnelle. Puis, Madame Enkel, clairement, vous l'avez dit, vous êtes, j'imagine que votre vie a totalement changé après les dragons et j'aimerais un petit peu en discuter sur un sujet spécifique. Donc, depuis plusieurs années maintenant, vous êtes une figure publique reconnue pour les femmes d'affaires au Québec, pour les hommes aussi, mais les femmes d'affaires voient depuis votre passage au dragon vraiment quelqu'un qu'on est capable de se fier, vraiment quelqu'un qu'on est capable peut-être de suivre par la suite, d'essayer de prendre comme modèle. Et d'ailleurs, vous êtes porte-parole de Evol, anciennement Femme Essor, comme mentionné en introduction dans le podcast. Vous avez eu la chance via Enkel Media de vous entretenir avec des femmes d'affaires comme Julie Poitrossonnier de Loop Mission, Nancy Raymond, présidente de Steamatic Canada et des dizaines d'autres entrepreneurs ayant grandement réussi au Québec. Madame Enkel, avec autant de visibilité sur le paysage entrepreneurial féminin québécois, êtes-vous capable aujourd'hui de nous parler de l'évolution que vous avez vue à ce niveau depuis vos débuts en affaires?
Oui, absolument. Je crois sincèrement que on a un énorme travail à faire encore, Antoine, au niveau de la place des femmes, que ce soit sur le plan entrepreneurial, que ce soit sur le plan économique, avoir un travail, être dirigeante, à la tête, peu importe, d'organisation, d'entreprise, de fondation. On a encore beaucoup de travail à faire. Par contre, lorsque je repense aux 30 dernières années, c'est-à-dire lorsque moi, j'ai commencé, quand j'ai voulu changer, lancer mon entreprise. Je prends un exemple simple. Je veux dire, avec tout le bagage avec lequel je me présentais, le fait que je n'avais pas d'attributs à mettre en garantie, je n'arrivais pas non plus à ce qu'on me voit comme quelqu'un qui avait un potentiel économique. Donc, on voyait probablement une personne extrêmement fébrile, passionnée par la possibilité de son entreprise naissante, mais qui, en réalité, n'avait rien de tangible à garder. Donc, j'avais pas de maison à donner. J'étais déjà moi-même hypothéquée. J'avais pas de voiture. J'avais une voiture avec des trous dans le plancher. Il y avait rien à prendre. Donc, j'avais rien. Je ne valais rien. Ça, c'est un. Deuxièmement, ce qu'on appelle aujourd'hui ce qui est essentiel, c'est tout ce qu'on touche à, quand on touche à mentorat, accompagnement, coaching. Il n'y a pas de mentor. Les mentors, on en parlait de temps en temps, puis c'était les grands de ce monde qu'on connaît, qui sont nos grands pionniers. Mais, tu sais, c'était en fin de compte les grands des grands qui se faisaient coacher par des ou mentorer par. Mais avoir accès, comme aujourd'hui avec Réseau Mentorat, ou avec Evol, ou avec Madame Henkel, ou avec d'autres, mais ça n'existait pas. Donc, j'arrivais avec peu d'outils qui pouvaient me permettre justement de grandir, de comprendre, d'apprendre. Aujourd'hui, on a plein d'outils. On a beaucoup de programmes. On a de l'accompagnement. On a du mentorat. On a aussi des modèles de plus en plus présents de femmes en affaires, de femmes dirigeantes. Donc, on arrive à avoir une sorte de concrétisation que c'est possible. C'est possible pour des femmes, qu'elles soient mamans ou pas, qu'elles aient des difficultés ou pas, d'avoir accès à leurs rêves, tout simplement. Donc, c'est possible. Oui, il y a une évolution, absolument. Sauf que, si je donne un chiffre, et je dis, par exemple, qu'à travers le Canada, nous n'avons encore que 16% de femmes en affaires. Je vous dirais que c'est quand même pas normal. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas parce que nous avons encore des perceptions ou des lentilles qui ne sont pas réajustées. On a encore beaucoup de travail à faire sur comment est-ce qu'on considère une femme en affaires. Est-ce qu'on la juge par rapport à son potentiel ou est-ce qu'on la juge seulement sur ses réalisations actuelles? Parce que c'est ce que ça prend aujourd'hui. La comparaison qui est réelle, c'est que quand c'est un homme encore, on le voit, et c'est pas une critique, c'est comme ça. On le regarde par rapport au potentiel. Quand c'est une femme, on lui demande quelles ont été ses réalisations. Donc, il faut que ça change. Et plus on va en parler, plus on va le regarder différemment, et plus on va aider à changer ça. Parce que on veut quoi, en fin de compte? On veut quoi, Antoine? On veut pas que la femme ou l'homme, c'est pas important, le genre. Ce qu'on veut, c'est beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'entreprises. On veut de plus en plus de création de richesses socio-économiques. Pourquoi? Parce que ces entreprises-là permettent d'avoir des emplois, permettent à des gens d'avoir un salaire, de payer leurs taxes. C'est ça la richesse collective. C'est à ça que ça sert. Donc, moins de biais on va avoir, moins de perceptions, plus on va se soutenir et plus on va être autosuffisant en tant que société, moins on va avoir de gens qui aujourd'hui n'ont pas trois repas sur la table. C'est pas normal. Je l'ai vécu. C'est pas normal. C'est demander à un être humain de ne pas avoir de dignité. On n'a pas le droit de faire ça. C'est d'envoyer des enfants à l'école sans qu'ils puissent avoir un petit déjeuner. C'est pas normal non plus. Nous sommes une société, entre guillemets, riche. Alors, comment en est-on arrivé là? On en est arrivé là parce qu'il faut qu'on se défasse de tous ces biais, autant sur les femmes que sur les personnes avec un handicap, ou les personnes handicapées, que sur les autochtones, que sur les Premières Nations et Inuits, que sur les LGBTQ2+. Nous sommes un tout, mais les femmes en font partie.
Puis, d'ailleurs, j'aimerais vous m'ouvrez une porte ici sur un point qui est assez intéressant que vous avez fait récemment. Donc, un autre engagement que je trouve admirable vient de votre association qui a eu lieu en octobre dernier pour le mois national de la sensibilisation à l'emploi des personnes handicapées. Vous venez tout juste d'en parler. Et vous semblez vous impliquer, Madame Henkel, dans différentes causes tout aussi nobles les unes que les autres. Considérez-vous qu'un entrepreneur, qu'une entrepreneure dans une entreprise maintenant se doit absolument d'avoir une cause sociale intégrée fondamentalement dans sa mission d'entreprise?
Absolument. Vous savez, une entreprise, d'abord, c'est une petite société dans la société. Dans notre entreprise, nous recrutons des personnes, ce sont des êtres humains qui eux-mêmes vivre des choses, des fois difficiles, des fois peu agréables. Le fait de pouvoir rassembler, d'abord c'est excellent pour une entreprise d'avoir une cause qu'elle soutient parce que ça donne aussi un sens d'engagement et de participation auprès aussi de nos fournisseurs, de nos collègues, de nos employés. C'est important et c'est vital. Ça fait partie de l'essence même ou du sens ou du purpose de cette entreprise. Une entreprise, c'est pas quatre murs, c'est pas un logo. Ce sont des êtres humains qui sont dans ces entreprises et qui ont besoin de savoir que le fait d'exister, que le fait de pouvoir créer, d'être pérenne, d'être, comment je dirais ça, successful, d'avoir du succès, que ça aussi doit être remis. Le succès doit être partagé, que ce soit par la connaissance, par de la formation, par de l'entraide ou par une remise de fonds, absolument. Toute entreprise, toute organisation, tous devons absolument partager notre richesse. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est une roue qui tourne, Antoine. On ne peut pas juste se gaver, on peut pas juste prendre. On doit prendre et redonner. On doit le faire adéquatement, on doit le faire parce que ça correspond à nos valeurs. Je vous donne un exemple. Vous me dites, vous êtes engagée, Madame Henkel, dans plusieurs causes, aussi nobles les unes que les autres, absolument. Et si vous faites des liens, vous allez voir que chacune des causes, c'est parce que elle me touche, parce que je l'ai vécue à quelque part. Vous savez, on a toujours des liens avec des causes qui nous touchent le plus. Je suis restée cohérent et c'est ce qu'il faut. Il faut être cohérent dans nos prises de décision, dans les causes qu'on va supporter, dans les messages que l'on donne autant à l'interne qu'à l'externe. C'est la cohérence, pas sur une année, mais sur une longévité. Ma cohérence à moi, elle est très simple. J'ai toujours dit que la cause que je vais défendre, sans arrêt, tant et aussi longtemps que je pourrai avoir la force de le faire et qu'on veuille continuer de m'entendre, c'est l'entrepreneuriat socio-économique et la diversité. De ce qu'on connaît de Madame Henkel, c'est exactement son créneau, année après année, mois après mois. J'ai pas changé mon fusil d'épaule et je ne l'ai pas.
Puis vous êtes pas embarqué sur ça pendant que c'était à la mode. Ça fait longtemps que vous en parlez. Et là, bon, maintenant, c'est davantage à la mode, mais vous êtes positionné derrière ça depuis très longtemps, donc c'est tout à votre honneur. Puis, vous avez parlé de redonner un petit peu plus tôt, donc je trouve ça intéressant peut-être d'amener le point ici de votre autre organisation, Henkel Media. Donc, pour situer un petit peu l'audience aujourd'hui, Henkel Media, c'est une plateforme en ligne qui regroupe des centaines et des centaines de contenus de très haute qualité présentés sous forme écrite ou encore sous forme de vidéo. Et je serais curieux de vous entendre sur ce sujet-là, Madame Henkel. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans un projet aussi costaud? Parce que j'invite l'audience à aller faire un petit tour sur votre site web. Il doit y avoir des nouveaux contenus qui sont mis quasiment à tous les jours et c'est des contenus de très haute qualité. Donc, c'est un travail colossal qui a été fait sur cette plateforme.
Merci, Antoine. J'apprécie beaucoup votre commentaire parce que non seulement pour moi, parce que je reconnais aussi mon implication, mais je reconnais aussi l'implication de ceux qui permettent à ce média-là d'exister, d'être pérenne. C'est tout le travail de mes petites mains en arrière qui sont absolument fabuleuses. J'ai une équipe en or, j'ai une équipe engagée. Alors d'où vient cette idée? D'abord, lorsque j'ai décidé de céder ma place à d'autres, parce qu'à un moment donné, comme on dit toujours, il faut savoir partir lorsque la table est encore mise et quand on est au plus haut de sa crédibilité, il faut savoir céder la place. Donc, je ne m'accroche à rien. Je me dis que la vie m'a positionné là, j'ai fait de mon mieux, j'ai fait ce que je devais faire, puis aujourd'hui, il faut laisser la place à d'autres. Mais ce que j'avais remarqué, c'est que je venais de découvrir, pendant ces 5 années, que le Québec, c'était pas Montréal. Le Québec, c'est pas la ville de Québec. Puis c'est pas Sherbrooke, puis c'est pas Trois-Rivières, c'est une multitude de régions avec une multitude d'entrepreneurs de toute taille, de tout azimut, mais avec des potentiels extraordinaires. Mais c'est comme si ils étaient invisibles. Mais ils l'étaient invisibles. C'est qu'on se préoccupe pas des régions, on se préoccupe pas des petites entreprises, des fameuses PME, avec un employé ou 5 employés ou 20 employés. C'est des petites entreprises, mais elles ont tout un rôle à jouer. Qu'elles en recrutent une de personnes. C'est quand même un salaire qui part. C'est quand même une existence. C'est quand même un support dans cette communauté-là. Puis, c'est quand même quelqu'un qui crée quelque chose, qui fait quelque chose. Bon. Donc, je me suis dit, ben, voyons, comment est-ce que je peux aider? Comment est-ce que je peux mettre les projecteurs sur ces régions-là et sur ces entrepreneurs eux et ces entrepreneurs tout azimuts de la diversité, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient vieux, qu'elles soient femmes, qu'elles soient pas, qu'elles soient LGBT, c'est pas important. Ce sont nos entrepreneurs et je les aime parce que je sais ce que c'est que d'en être un et d'en être une. Alors, j'ai décidé de créer une plateforme. Honnêtement, Antoine, je vais vous avouer qu'il y a 3 ans, parce que le 28 novembre prochain de ce mois-ci, ça fera 3 ans. Je ne savais pas où est-ce que j'allais aller. Je me suis dit, je veux juste qu'on aille les chercher, qu'on les fasse parler, qu'on leur donne une visibilité. Pour cela, ça me prenait d'avoir des collaborateurs, des partenaires, que les gens croient à cette mission collective. Donc, je suis allée taper à la porte des grandes entreprises et je leur ai dit, j'aimerais vous offrir une façon différente de vous positionner, de raconter votre histoire, ce qui va me permettre aussi de raconter l'histoire d'entrepreneurs dans nos régions. Et c'est comme ça que c'est parti. Donc, c'est parti d'une idée. Je l'ai financée moi-même de mes poches. J'ai rien demandé à personne. Aujourd'hui, je remercie les partenaires qui ont embarqué, qui ont cru. On est aujourd'hui rendu avec des 37 millions d'impressions, avec 2,8 millions de personnes qui viennent s'abreuver de nos contenus. Merci, effectivement, c'est des contenus de très haute qualité. Je refuse de mettre un produit ou un service à disposition des clients, quel qu'il soit, s'il n'est pas à l'image de ce que j'aime offrir. C'est-à-dire que je respecte assez la personne qui va recevoir pour lui donner ma plus haute qualité. Donc, pour moi, c'est pas la perfection, c'est l'excellence. Donc, le média représente l'excellence. Le média ne parle pas de Daniel Henkel. Le média n'est pas Daniel Henkel. Le média s'appelle henkelmedia.com parce qu'il appartient et je veux qu'il me soit pérenne. Il ne m'appartient pas. Il appartient à tous ces entrepreneurs, tous ces partenaires-là et j'aimerais qu'ils en fassent le leur. J'ai créé mon propre site, Antoine. J'ai séparé la femme du média. Donc, si on veut la coach, la conseillère stratégique, la conférencière ou l'écrivaine, on va aller sur danielhenkel.com si ça se passe. Mais si on veut le média, on veut parler de soi, on veut parler de l'humain, on veut parler d'un produit en expliquant pas juste le produit, mais pourquoi ce produit a été créé, quelle a été la flamme qui l'a fait créer, puis qu'il est québécois ou québécoise et qu'il est porté par un jeune entrepreneur, c'est pas important, dans une région spécifique. Et que ça rapporte parce que ça a un impact, ça a un respect. Sur mon média, on ne parle que de services, de produits qui ont un impact positif, autant sur les gens que sur l'environnement. Et ça depuis toujours, bien avant que ça devienne une mode.
Si vous écoutez le podcast Hypercroissance, j'assume que vous dirigez une entreprise qui désire obtenir une croissance accélérée. J'imagine également que beaucoup d'entre vous possédez une organisation qui vend en ligne et qui désire aller chercher plus de parts de marché. Eh bien, si c'est le cas, sachez que J7 Media veut vous aider. Et la première étape pour vous donner un coup de main avec votre croissance est de diagnostiquer votre situation actuelle. Donc, si vous possédez un commerce en ligne et que vous désirez l'amener à un niveau supérieur en 2022, rendez-vous au www.j7media.com/diagnostic. Donc, je le répète, www.j7media.com/diagnostic afin d'obtenir 100% gratuitement une analyse de vos performances numériques. L'équipe qui est derrière plus de 30 millions en investissements publicitaires Facebook à l'année veut vous aider à grandir et tout se commence par un diagnostic de vos efforts actuels. Donc, je le répète, j7media.com/diagnostic afin d'obtenir une analyse 100% gratuite. De retour à l'épisode en cours. Puis, on a parlé beaucoup de vos projets présents. J'aimerais parler un petit peu de vos projets passés. Donc, beaucoup de gens au Québec vous ont connu grâce à votre charisme remarquable lors de l'émission Dans l'œil du dragon. Je crois que tout le monde s'en rappelle. Et vous avez été sur le plateau, vous l'avez mentionné, pendant 5 années. Je crois même que c'est un record parmi tous ceux qui y étant allés. Je ne pense pas que quelqu'un a fait plus que 5 années. Donc, félicitations pour ça.
Merci.
Et ma question pour vous à ce sujet, à quel point cette aventure a marqué votre carrière et par la suite, peut-être, vous a aidé dans votre cheminement professionnel. Je serais curieux de vous entendre là-dessus.
Alors, en quoi ça m'a aidé? Ça m'a permis d'être connue par le grand public. Ça m'a permis aussi d'être connue par des pairs dans des domaines d'activité complètement différents des miennes. Ça m'a permis aussi de pouvoir découvrir la femme que je suis. En fin de compte, l'humain que je suis, la personne que je suis. Parce que souvent, on catégorise les gens, on les met souvent dans des boîtes parce qu'on a une perception, parce qu'on l'a vu à la télé, elle semble être aussi, mais on connaît pas la personne. Je parle de moi comme je peux parler de n'importe qui d'autre. On catégorise les gens par rapport au message que l'on reçoit. Mais on se préoccupe rarement de dire « oui, mais encore, qui est-elle? Pourquoi elle fait ça? Quelles sont ses valeurs? Quel est son impact ?» Et je le mets encore une fois pour tout le monde. Donc moi, je suis curieuse de nature, Antoine. Curieuse pas d'aller fouiller dans le sac de quelqu'un, mais curieuse de la vie, curieuse des autres. Quand je rencontre quelqu'un, ce qui m'intéresse, c'est pas juste qu'il soit riche ou pauvre. Je m'en fous. Ce que je veux savoir, c'est qui il ou elle est. Parle-moi de toi. Parle-moi de tes rêves. Parle-moi de ce qui t'a amené là où tu es. Puis partageons ensemble, grandissons ensemble. Donc, en réalité, ce qui m'a fait découvrir qui je suis aussi, c'est aussi que j'ai appris sur moi, Antoine. J'ai appris à me tenir debout. J'ai appris à faire face à la critique aussi, tout comme à l'acceptation. J'ai appris à gérer mon ego, parce que mon Dieu, que l'ego peut nous amener dans une direction ou une autre. J'ai appris à le gérer, j'ai appris à l'utiliser quand c'était nécessaire, mais à le remettre à sa place quand ça ne l'était pas. J'ai appris à me faire encore plus confiance, mais j'ai appris une chose, la plus importante. Vous savez, je me respectais déjà beaucoup avant, ce qui me permettait de respecter les autres. Mais je me respecte d'abord pour qui je suis. Ce que ça a fait, c'est que ça m'a donné la force de croire vraiment en mes valeurs. Donc mes valeurs ont été le pilier de cette visibilité pour ne pas tomber d'un bord ou de l'autre. De ne pas me laisser happer, Antoine, par cette popularité. Je suis restée ancrée. Je suis restée la même. J'ai des amis qui m'ont connue il y a 30 ans et qui aujourd'hui me disent « Mais sapristi, comment tu fais? T'as pas changé. » Non, j'ai pas changé. Je veux pas changer. Et pourquoi est-ce que je changerais? Je ne suis pas en train d'essayer de vendre quoi que ce soit, qui que ce soit. Je suis simplement en train d'essayer de passer au travers d'une vie, Antoine, en étant fière de ce que j'accomplis à tous les jours, pour moi et avec les autres. C'est ça. C'est tout simplement ça. C'est de reconnaître que faut que je sois capable d'être fière de ce que je fais à chaque jour. Donc, la perception des autres, je la leur laisse. Ils sont libres d'avoir la perception qu'ils veulent ou du jugement qu'ils veulent. Mais moi, je sais qui je suis. Alors, voilà ce que ça m'a apporté. Ça m'a apporté aussi, je l'ai dit tout à l'heure, à découvrir notre magnifique Québec. La richesse humaine, la richesse entrepreneuriale, la richesse à tous les niveaux. Et c'est pour ça que je refuse de me taire. Parce que cette richesse-là, ou ces richesses-là, on doit les faire voir. On doit les découvrir et on doit les reconnaître, ce qu'on ne fait pas toujours. On ne reconnaît pas les gens pour ce qu'ils sont et ce qu'ils font pas assez. Il faut que ça change.
Puis, je serais curieux, Madame Henkel, à quoi ressemblent les prochaines années de votre carrière en affaires? Parce que vous avez tellement de projets, vous êtes impliqué dans tellement d'associations, tellement d'organismes que vous représentez. Comment entrevoyez-vous les 3, 4, 5 prochaines années de votre carrière en affaires?
Je vous dirais que si la vie me le permet, si la santé est là, je vais continuer de faire ce que je fais aussi longtemps que se peut, avec la même fougue, avec la même force. Je me considérerai jamais comme une vieille. Mais vraiment pas. Je me considère toujours comme une petite fille. J'ai le comportement d'une jeune fille qui s'amuse, prend du plaisir à ce qu'elle fait, même quand elle reçoit des coups de poing, même quand elle tombe, même quand elle a des échecs. C'est difficile des fois de se relever parce qu'il y a des coups qui sont plus forts que d'autres. Mais c'est ça la vie. C'est comme ça que j'ai appris. C'est comme ça que j'ai appris à savoir que, disons que si je me relève, ben c'est parce que je veux me relever. C'est pas parce qu'on me dit qu'il faut que je me relève. C'est parce que c'est moi qui décide qu'il faut que je me relève, parce que je peux pas rester là où je suis. Parce que j'ai encore la flamme, parce que j'ai encore confiance à la vie, parce que j'ai encore des choses à accomplir, parce que j'arrêterai jamais de vouloir créer. Cette passion, cette flamme qui m'habite, elle m'appartient et c'est elle qui me permet de me lever tous les matins en me disant « Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Demain, je sais pas, Antoine. Demain, je sais pas. C'est aujourd'hui. Ça se passe aujourd'hui. Demain, on verra. Demain, on verra. Mais tout ce que je vais apprendre aujourd'hui, je vais le mettre à profit demain, si demain il y a. Vous comprenez ? Donc, je suis très présente dans le moment présent. Je suis entière dans ce que je fais. Je suis dévouée à mes amis, à ma famille, à ceux qui sont importants dans ma vie. Ma famille prend toute la place. Mes amis aussi. J'en ai pas beaucoup. Ce sont les mêmes depuis de nombreuses années. Et ça, c'est riche pour moi. Donc oui, j'ai beaucoup de connaissances. Je m'entoure du moins du mieux que je peux, mais je suis très fidèle, très très fidèle, même avec mes fournisseurs. J'ai les mêmes fournisseurs depuis 27 ans. J'ai la même banque depuis 20 ans. Je pars du principe que tout dans la vie ne peut pas être stable. Il y a des hauts et il y a des bas. Il y a des négociations, il y a des remises en question, il y a des conversations bienveillantes qui doivent avoir lieu. Il y a des changements de priorité et c'est là où on s'adapte et on doit être flexible. Donc, avoir une communication bienveillante, c'est-à-dire que je peux tout dire à quelqu'un, je peux tout dire à mes partenaires, mais il faut que je le dise avec bienveillance. Il faut que j'arrive à faire valoir mon point de vue aujourd'hui, mais que je sois capable de recevoir leur point de vue aussi, Antoine. C'est comme ça qu'on grandit. On peut pas grandir quand on doit changer à chaque fois d'entourage. C'est pas comme ça qu'on bâtit. C'est du sable mouvant. Je veux bâtir du solide autant que se peut. Donc, ça prend de communiquer. J'ai les mêmes fournisseurs parce que ça veut pas dire qu'on est d'accord tout le temps. Ça veut dire qu'on est capable de se dire les vraies choses parce qu'on a appris une chose importante, c'est qu'on peut se faire confiance parce qu'on est vrai l'un vers l'autre et parce qu'il y a de l'authenticité. Puis quand ça va pas, ben on le dit, ça va pas. Puis quand ça va, on dit merci, puis ça va. Mais on doit se parler. Il faut être transparent. La même chose en famille. En fin de compte, c'est un état d'être. Et on le transporte, moi je le transporte dans ma vie professionnelle, mais dans ma vie personnelle. What you see is what you get. Ce que tu vois, c'est ce que tu reçois.
Fascinant tout ça. Puis, Madame Henkel, vous avez écrit des livres, 3, qui ont été des best-sellers, comme j'ai dit en introduction. Félicitations. Merci. Question maintenant pour vous. Est-ce que vous lisez également certains livres? Est-ce qu'il y a certaines lectures d'affaires qui ont marqué votre imagination?
Oui, beaucoup. Je lis peu en ce moment, je dois vous avouer, parce que je travaille beaucoup. J'écoute beaucoup. J'écoute les TEDx, j'écoute des fois des émissions, une émission en particulier que j'aime écouter, qui est une émission française parce que je trouve que malheureusement au Québec on ne débat pas assez. J'aime les débats quand ils sont constructifs. Il y a une émission qui s'appelle C'est dans l'air, une émission française et donc on parle de tout, on parle de science, on parle de politique, on parle de livres, on parle d'écrivains, on parle de sujets d'actualité, mais de façon différente. Les gens échangent extrêmement respectueusement, mais c'est riche en contenu. J'aime le contenu. Exemple, j'aime la musique, mais j'aime les chansons dont les paroles veulent dire quelque chose. Je suis incapable d'écouter une musique où les paroles ne veulent absolument rien dire. J'ai besoin d'être nourrie. Les mots sont importants, Antoine. Les mots font la guerre. Les mots font la paix. Les mots sont importants. Le choix des mots, M-O-T-S. Et donc, oui, j'ai un livre de chevet, entre autres, Le Petit Prince qui me suit depuis toujours. J'ai un autre livre de chevet qui s'appelle Le Prophète. C'est écrit par un grand philosophe, un des plus grands philosophes de tous les temps qui s'appelle Khalil Gibran, que plusieurs vont reconnaître. Et ce livre-là, eh bien, c'est un livre qui est très petit, très court, mais qui remet en place certaines valeurs importantes de l'évolution de l'humain dans sa propre évolution à lui. Et je peux donner aussi des noms à d'autres livres que j'ai lus, que probablement plusieurs entrepreneurs ou tout simplement dirigeantes ou dirigeants ont lu. Il y en a un qui est en anglais qui s'appelle « The One Thing ». Le one thing, c'est comment apprendre à couper à travers tout le bruit, tout le brouhaha, les emails, les courriels, les si, et de focaliser sur la chose la plus importante à ce moment-ci pour pouvoir atteindre un objectif clair. Donc, the one thing, c'est cette chose-là au lieu d'une multitude de choses. Un autre livre qui s'appelle Blink, et qui a été écrit par Malcolm Gladwell. Malcolm Gladwell a écrit aussi The Tipping Point, mais je pense que vous le connaissez, ce livre-là. Et là, on parle dans le Tipping Point, je l'ai noté pour pas oublier, pour redéfinir comment on comprend notre monde qui nous entoure, le monde qui nous entoure. Et c'est à travers The Tipping Point qu'il révolutionne la façon de comprendre le monde intérieur. Puis dans le Blink, c'est comment on peut devenir des personnes qui prenons de meilleures décisions, autant à la maison que dans nos bureaux, dans nos entreprises, que sur le plan personnel. Comment on arrive à devenir des personnes avec un peu plus de clarté, tout en étant bien dans nos décisions. C'est ça la clé. La clé, c'est que il n'y a pas de vrai ou de faux. Il n'y a pas « j'ai pris une mauvaise décision », ça n'existe pas. J'ai juste pris une décision. Et cette décision va avoir une conséquence qui peut être plus dommageable quelquefois ou qu'on peut regarder comme étant négative, mais qui ne l'est pas parce que c'est un apprentissage. Et c'est comme ça qu'on apprend d'ailleurs. Ou bénéfique qui nous amène un certain succès, et tant mieux. Mais il n'y a pas de mauvaise décision, ni de bonne, il y a juste des décisions à prendre. Donc comment on fait pour prendre des décisions avec les responsabilités qui viennent avec?
Madame Inkel, c'est un cours d'université que j'ai aujourd'hui. Je trouve ça totalement fascinant. Je continuerai cette conversation-là pendant des heures. Mais le temps file et j'aimerais vous poser une dernière question avant de terminer l'entretien aujourd'hui. Et la question serait la suivante. Si vous aviez à revenir en 1997 aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez à la Danielle Inkel de 1997 sur ses 25 prochaines années en affaires? Quel serait le conseil numéro un que vous lui direz pour qu'elle se prépare à sa carrière entrepreneuriale qui ne sera pas de tout repos?
D'abord, je commencerai par lui dire merci. Vraiment merci. Vous voyez, je deviens émotive quand je pense à l'être humain d'il y a 1997. Parce que cet être humain, ça lui aura tout pris. Elle a dû puiser dans tout ce qu'elle avait à portée de la main, tout ce qu'elle a appris, tout ce qu'on lui a pris, tout ce qu'on lui a enlevé, tout ce qu'on lui a laissé, pour qu'elle soit capable de continuer à se tenir droite et à croire en elle et à continuer de vouloir se battre, à continuer de vouloir avancer malgré qu'elle traînait un genou à terre. Donc je lui dis merci. Merci de n'avoir jamais abandonné. Merci d'être restée aussi authentique à ses valeurs. Merci de n'avoir jamais cédé à ne pas faire face à ces valeurs-là. Puis merci d'avoir accepté d'être fragile, d'être vulnérable, de céder à la peur, de céder au doute. Merci pour tout ça, parce que c'est ce qui font la femme que je suis aujourd'hui. Je devrais dire la personne que je suis aujourd'hui et celle qui va continuer. Parce que c'est tout ce bagage qu'on ne peut pas m'enlever. C'est tout cet apprentissage qu'on ne pourra jamais m'enlever. Parce que je sais, c'est qui je suis. Et j'en suis très fière.
Mais félicitations pour votre carrière qui est assez incroyable. Félicitations également pour le rayonnement que vous faites et que vous donnez aux entrepreneurs, aux femmes entrepreneurs au Québec. Je pense que c'est tout à votre honneur et qu'on a besoin de plus de gens comme vous qui puissent faire rayonner l'entrepreneuriat dans notre belle province. Donc, Madame Inkel, encore une fois, je tiens à vous le dire, merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui de partager tous ces conseils avec notre audience. C'est très apprécié. Puis si on veut en apprendre plus sur vous, Inkel Media, j'imagine que c'est le meilleur endroit pour en apprendre un petit peu plus.
Et danielinkel.com, si on veut savoir ce que la femme a fait, ce qui l'a amené à devenir aussi résiliente, aussi tenace, mais qui est restée tout aussi humaine, tout aussi abordable et tout aussi terre à terre.
Merveilleux. On mettra les deux liens dans les notes de l'épisode pour que les gens puissent s'y retrouver. Merci encore une fois, Madame Inkel. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance. J'espère que cet entretien avec Madame Inkel vous aura donné la source de motivation nécessaire afin de terminer l'année en force. On arrive dans le dernier droit de 2021 et c'est plus important que jamais de bien terminer ses dossiers afin d'attaquer 2022 en force. Également, continuez à m'ajouter sur LinkedIn. Comme je vous le dis à chaque semaine, j'adore discuter avec vous. Et plus souvent qu'autrement, vous me donnez de super idées d'invités pour le podcast. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.